Merveille, cette émission que je viens d'écouter. Une pure merveille. C'est vrai, nous sommes tous des handicapés. Pouvoir communiquer, pouvoir... Quelle pure splendeur. Merci à vous d'avoir fait une émission de ce genre. Je suis Lynette de Lyon. Merci.
Oh, attendez, j'ai failli faire pipi dans ma culotte quand le père Raffarin, il nous a fait sa tchatche tout à l'heure, là, en parlant de l'égalité avec une voix de chèvre. Alors, j'ai dit, c'est un sketch ou c'est réel? Non, attendez, arrêtez, là, au gouvernement, vous partez en biberine. Et l'autre qui interdit de fumer le baboulin. Mais attends, Raffarin, on va s'en griller un petit un, là, et rouler jeunesse. Allez, allons-y, là, il faut un peu mettre de l'huile, parce que, on va pas aller au carton, non? Bon, allez, on continue dans cette émission. Félicitations à tout le monde, et particulièrement à Claire, qui fait des interviews vraiment très, très sympas et très profonds, avec une énorme, énorme gentillesse. Allez, à bientôt.
Oui, cher Daniel, je suis certaine que tu auras plein de messages pleurnichards après ton émission. Mais Nicole et Philippe ont tout compris. Le handicap, oui, c'est un combat de tous les jours. Handicap mental, moteur, psychique, nous sommes refusés dans cette société. Ce n'est pas de la solidarité que nous recherchons, mais une véritable citoyenneté. Le handicap est un état, comme les autres sont blancs, noirs, bleus ou jaunes. Cette société nous donne des revenus minima, nous soumet à la tutelle. Où est notre autonomie? Où est notre vie? Par exemple, donner une journée, c'est encore nous exclure. Alors, quand n'entendrons-nous plus jamais si je n'étais pas comme ça? Nous existons, et à vous de changer votre regard. Nous sommes des citoyens comme les autres, et nous devons nous battre tous les jours. Alors, à bientôt. Au revoir.
Oui, salut Daniel. Salut à toute l'équipe. Là, je viens d'entendre l'émission consacrée à Philippe et à son épouse. Moi, je dis chapeau et quelle lucidité ils ont. Et finalement, on aurait peut-être, nous, les gens, entre guillemets, normaux, à tirer quelques leçons de tout ça. Allez, continuez, et puis j'ai hâte d'entendre la suite demain. Alors, c'est Bernard de Saint-Paul.
Salut. Eh ben, la suite, Bernard, la voilà aujourd'hui. On va retrouver Nicole et Philippe, nos deux amis. On peut dire amis parce que les messages ont été très, très nombreux. Vous avez été émus, secoués, concernés par cette rencontre. Et on les retrouve donc aujourd'hui. Et également, on va retrouver Nicole Diederich, donc cette... sociologue spécialiste du handicap qui va nous éclairer précisément. Évidemment qu'on n'aura pas le temps, quoi qu'il en soit, d'ici à 18h d'épuiser ce sujet qui est un sujet compliqué sur lequel nous avons beaucoup beaucoup de retard. La France a beaucoup beaucoup de retard. Vous avez entendu le petit reportage dans le journal dans ce domaine. Donc aujourd'hui Nicole et Philippe, pourquoi pas nous, un monde à part comme on voudra. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je m'appelle Elida, je suis maman d'un grand garçon autiste, et je suis par ailleurs soignante et je travaille en psychiatrie. Je suis donc doublement concernée par cette émission, car effectivement, comme l'expliquent Nicole et Philippe, c'est eux qui sont obligés d'aller chercher cette intelligence et on leur refuse le droit d'exister comme tout le monde. Et pour cela, il faut quand même rappeler que un objet de solidarité, puisque vous parlez d'une société de solidarité, une société de rivalité plutôt que de solidarité, l'objet, l'instrument de la solidarité, c'était la sécurité sociale, qui depuis des années subit de nombreuses attaques, de nombreuses remises en cause, et qui aujourd'hui va être l'objet d'une nouvelle réforme qui cherche à détruire la sécurité sociale, à confisquer la sécurité sociale à ceux pour qui ça représentait la solidarité, et les handicapés. Moi, je suis maman d'un fils, d'un garçon, et je vous assure que s'il n'y avait pas la sécurité sociale, il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge de qualité comme il en bénéficie aujourd'hui. Et quand il sera adulte, c'est trouver une place pour un garçon adulte qui a besoin d'un lieu de vie, mais un lieu de vie qui ne soit pas un mouroir, une saloperie comme il y en existe, eh bien c'est très difficile. Et ça fait plusieurs fois que j'essaye justement de vous appeler par rapport à ça, à la politique qui est faite par rapport aux handicapés, avec cette fausse intégration qui a été instigée par Madame Ségolène Royal au mépris total de la réalité. Hein, avec des écoles qui étaient spécialisées pour recevoir des enfants qui avaient multiples handicaps, qui ont été fermées parce que justement problème de rentabilité. Alors j'aimerais bien que vous en parliez parce qu'il faut parler des choses concrètement et pas abstraitement. Merci. Au revoir.
À propos de l'émission de ce soir sur les gens qu'on dit déficients intellectuels, je voudrais dire ce petit texte. Ils ont juste besoin de se découvrir de bonnes raisons de s'aimer. Ils ont juste besoin de découvrir que la vie n'est pas toujours un danger. Ils ont juste besoin qu'on les aide à écrire l'avenir à l'encre de l'espoir. Ils ont juste besoin qu'on les aide à ouvrir les portes de leur intelligence, à chercher des réponses à l'angoisse, à puiser au fond d'eux-mêmes la force de s'affirmer, à trouver les mots, à exprimer la souffrance, à épanouir les richesses enfouies. Ils ont juste besoin d'un regard. Ils ont juste besoin qu'on croie en eux. Ils ont juste besoin qu'on les aime pour ce qu'ils sont. Ils ont juste besoin de trouver sur leur route des adultes debout qui élaguent le chemin. Et nous, humblement, parce que nous avons juste besoin d'eux, nous répondons présents. Brigitte, enseignante spécialisée en IME depuis 30 ans.
Bonjour, un extrait du livre d'Alain Grèche, Israël-Palestine, vérité sur un conflit, page 163 en bas. Le 13 septembre 1993, si je compte bien, ça fait exactement 10 ans. À Washington, sous la tutelle bienveillante du président américain Bill Clinton, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin se serrent la main. Un espoir fou balaye la région, le monde. Palestiniens et Israéliens semblent parvenus au bord de la paix. C'est dommage qu'on n'ait pas parlé de ces 10 ans et de là où on en est maintenant. Voilà, c'était aussi un anniversaire, une décennie, dans ces jours-ci. Allez, la bise à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Les Rotaires. Là-bas, si j'y suis, pourquoi pas nous?
Flight number 2, arriving from New York.
Ils se sont cachés dans un grand champ de blé. On les a trouvés au bas du chemin. On les a trouvés au temps des vacances. Je sais plus, ça m'arrive, des petits morceaux comme ça qui m'échappent. Ils se sont connus au bonjour de France. Ils se sont connus dans le brouillard. Ah oui. Ah oui, parce que moi, je veux pas chanter, comment je veux dire, ce qu'on écrit. Mais je veux pas copier, parce que copier les chansons de quelqu'un, c'est piquer sa place.
On n'a pas touché de beaucoup d'intelligence, mais on l'a quand même. On n'a pas fait de toute lecture, on n'a pas fait de toute écriture, on n'a pas appris l'alphabet, on vit en alphabète. On est quand même dans un monde à part.
Et pourquoi encore à l'heure actuelle on nous ignore? C'est ça le vrai combat, je voudrais que ça s'arrête, que les gens ils ne fassent plus la différence avec les handicapés mental, physique, et qu'ils essaient d'être avec nous, quoi, à leur accueil, quoi.
Les handicapés, souvent, on les voit très souvent enfermés, très à l'intérieur, mais pas très intellectuels. Ils sont intellectuels. Ils sont intellectuels, mais un intellectuel spécial. C'est pas l'intellectuel comme tout le monde. C'est un intellectuel qui se développe par l'agrandissement de la vie. Et c'est ça qui fait souffrir ces handicapés. Ils essayent de nous regarder avec une espèce de misère lourde à travers les yeux. Et souvent, je pourrais dire, on n'est pas battu parce qu'on se bat, mais on est battu par cette force qui ne veut pas nous donner de l'intelligence. Et qu'il faut qu'on la cherche nous-mêmes. C'est comme la chasse au trésor. Vous voyez ?
Allez, d'accord, siffle. Siffle, coco.
Allez, Jaco. Et pour coton. Ah. Oui.
Si c'est bien vrai, si c'est bien vrai qu'une société se définit par la place qu'elle accorde aux petits, à l'étranger, à l'autre, au pas pareil, au vieux, au fou, à l'inutile, à l'esquinté, au naufragé, alors, si c'est bien vrai, comment définir notre ici et notre aujourd'hui quand on est petit, vieux, fou, étranger, esquinté et moyennement performant? Quelle place avons-nous? Je dis nous, oui, parce qu'en écoutant hier Nicole et Philippe, bon, on se dit qu'on est tous handicapés et qu'on aimerait parfois, sans doute, avoir être, comme dit Philippe, intellectuel, mais pas comme tout le monde. En tous les cas, eux deux, Nicole et Philippe, sont partis à cette chasse au trésor, avec toutes les souffrances que ça suppose, mais avec la conscience de ces souffrances. Lui, Philippe, il nous a expliqué hier, il a un handicap à la naissance. Et il avait, il est né avec le cordon qui le serrait, et ça a créé ce handicap. On verra aujourd'hui qu'il est né un 15 août et que ben dans les 15 août il y a pas tellement de monde dans les hôpitaux. Et Nicole, elle, c'était un handicap des jambes, et elle est née un 31 décembre, je crois bien. Et là aussi, ben, c'est un jour où il y a pas tellement de monde dans les hôpitaux. Donc il y a des raisons, il y a pas toujours de raison à la déraison, mais il y en a parfois. On va passer cette heure avec eux et aussi avec vos messages. Vous avez été très très nombreux à laisser des messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, autour d'une question vraiment évidemment cruciale. Julia Kristeva, dans un rapport qu'elle a adressé à la présidence de la République sur le thème du handicap, explique comment cette conscience de l'autre à travers le handicap nous renvoie au XVIIIe siècle, c'est-à-dire à notre siècle des Lumières, à nos philosophes des Lumières. Les corps infirmes, jadis dans les sociétés traditionnelles, connaissaient des sorts divers. Parfois, c'était une horreur sacrée qu'ils inspiraient, avec des superstitions, des magies. Certaines civilisations protégeaient les handicapés, les manus de l'Inde par exemple. Pour eux, bien, les enfants, les vieillards, les pauvres et les malades doivent être considérés comme les seigneurs de l'atmosphère. D'autres les supprimaient, à Sparte par exemple, et au contraire, sur le fond d'égalité des droits de l'homme, Denis Diderot, nous y voilà, dans sa lettre sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, une lettre de 1749, démontre les capacités de ces infirmes et c'est ça le plus important, réhabilite la personne déficiente comme sujet politique. Eh ben, nous y voilà. Sujet politique. Dans un message à l'instant, une auditrice disait, nous, les handicapés, nous sommes des citoyens comme les autres. Eh bien, nous voilà. Voilà. C'est le message de Diderot, vous est parvenu, madame. 1749, les aveugles sont des sujets politiques. Et toute la question est là. Les handicapés sont-ils ou non des sujets politiques? En disant cela, évidemment, Diderot, et avec lui, bien, les philosophes des Lumières, voulaient faire sortir l'aveugle de la compassion, de la charité dont il faisait l'objet, pour en faire un citoyen à part entière, qui a sa place, qui a sa part dans sa singularité et qui fait partie du concert de l'humanité, de la multitude, avec chacun sa singularité. Et cette idée de Diderot, ben, elle est toujours à défendre et elle est toujours menacée. Peut-être aujourd'hui plus menacée qu'à d'autres époques historiques. Avec Nicole et Philippe jusqu'à 18h, un reportage de Claire Auterre dans la basse vision.
Regarde Philippe, il y a les petits canards là. Comme ils sont jolis.
C'est joli, hein, c'est mignon.
Il y en a qui a pris son envol, qui allait se poser sur la petite île. C'est beau, hein.
Ouais, il y a des trucs comme ça, j'imagine, des fois, comme des images.
Oh, c'est un petit parc à Granville.
Ah oui, c'est un petit parc.
Avec des pièces d'eau, une petite île.
Il y a tout ce qu'il faut pour reposer les gens qui ont besoin de se détendre, quoi. Ont besoin d'enlever un petit peu leur solitude de la maison. Aller ou simplement dormir un peu et puis écouter les bruits des oiseaux, les bruits d'arbres, les bruits de feuilles qui se tapent entre les autres. Ces grands arbres, qui, ces feuilles qui tombent et tout ça, là, qui touchent presque l'eau, là, c'est beau, quoi. C'est une nature naturelle, quoi. Et la vie est tout de même pas mal. C'est vrai que on est bien, quoi. On est bien prospéré. Tranquille. Mais de quoi ça nous arrive de rien dire, d'être là, puis de dire, ben, ça va, je suis bien, j'attends le lendemain pour travailler. Là, puis la vie continue, mais heureux, quoi, à bon pas, quoi, à bon chemin. Une vie normale, quoi. Moi, je me dis, il n'y a pas plus normal qu'une vie comme nous. Le mot handicap, c'est un handicap, si tu veux.
Très putain, enlever de moi. Oui, mais il faudrait putain enlever de moi handicap mentaux.
Ben, c'est ça le problème, c'est qu'on a cherché longtemps. On n'a pas trouvé.
Regarde, Nicole, il est en train de nous prendre en photo. Tu nous dis quand il faut sourire, Philippe. Mmh. Il faut qu'on sourie, là.
Oui.
Bon. Mmh.
T'en prends une autre?
Ah oui, l'ampoule de fer a marché sans flash. On s'est retrouvés tous les deux au départ pour se vivre ensemble, mais pour une longue discussion, quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a mis les cartes sur la table, parce que c'était vraiment un jeu, quoi. C'était une histoire de boule magique, quoi. C'est quelque chose qui nous a permis de rêver, parce qu'on était tous les deux heureux. On s'est trouvés là. Non, ils vont pas réussir, mais c'est pas possible. C'est catastrophique. Il y a beaucoup de gens qui disaient ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? On a fait une relève de vie de couple, je dirais formidable, quoi. On s'aime beaucoup, quoi. Bon, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses de notre vie, Nicole? Notre vie qu'on vit, quoi. Bon, c'est quelque chose que je ne connaissais pas, quoi. Parce que moi, bon, comme j'ai mes jambes, j'arrêtais pas de galoper. Vous avez un handicap quand même, hein. Je m'en rendais pas compte que les autres s'en rendaient compte quand même, hein.
Toi, t'avais un genre de handicap, elle avait un autre genre de handicap. Et alors, vous avez mis ensemble vos deux handicaps, c'est ça?
En commun, quoi. Je trouvais que derrière une autre vie, il n'y avait pas autre chose à faire que ça. Et s'il n'y avait rien de plus beau, c'était ça. Il n'y avait rien, qui pouvait nous intéresser en dehors de ça. Et c'était ça qui était le plus joli de mon fait, de mon amour, quoi. J'ai de vivre quelqu'un qui, comme Nicole, qui est jolie, que son amour, son affection, mais en même temps, ses douleurs. C'est douleur qu'elle a déposée devant ma porte, quoi. Et c'est ça qu'elle voulait, c'est qu'elle dépose toutes ses douleurs devant ma porte pour que j'essaie de comprendre. Et j'avais mis longtemps à comprendre. Mais finalement, quand j'ai tout compris, on s'est trouvé heureux. Et c'était vraiment éternel, ça. Ils se sont connus au bonjour de France. Ils se sont connus dans le brouillard. Ah oui.
Ah oui. Moi, je me suis dit, quand je l'ai connu, je me suis dit, je vais faire ma vie avec lui, quoi. Au départ, c'était dur à l'accepter de sa qualité, quoi, parce que souvent, il voulait sortir, il voulait. Alors, et puis des fois, il rouspétait, monsieur, il rouspétait, il grognait, il était pas content.
Mais là, maintenant, je souffre plus de ça parce que. Mais je souffre d'autre chose, parce que les gens n'essaient pas d'essayer de nous accepter ou de se faire accepter, c'est pour ça que je souffre. C'est pas le reste. Le reste de notre amour, c'est notre amour, il va bien.
Nicole, pour toi, c'était difficile aussi d'accepter la différence de Philippe?
Je savais qu'il avait un handicap, mais je voyais pas son handicap, quoi. Pour moi, c'était l'homme de ma vie, quoi.
Ouais, c'est une force qui nous pousse à vivre. Je sais pas comment dire, moi. Elle nous pousse à aller au coin de nouveau. On est capable d'aller très loin comme ça, même faire tout le tour du monde comme ça, parce que aujourd'hui, ce qu'on lutte contre l'handicap, nous, c'est ce qu'on fait, c'est lutter contre le handicap qu'on a, qui nous fait perdre un petit peu le goût de la vie, quoi. Pour les voyages de noces, on est allé à Lourdes, oui. À Lourdes, oui. Pour aller se réveiller un petit peu, pour voir comment vivent les gens, comment marchent les gens, comment vivent les paralysés, pour aider Nicole aussi, parce qu'elle s'est baignée dans le Béni.
Dans le Béni, ça m'a fait du bien, d'ailleurs.
Mais notre vrai voyage de noces, qu'on voudra aller un jour, c'est à Tahiti. Mmh. Elle est belle, la mariée. Mmh. C'est un photographe qui a fait les photos. C'est lui qui nous a exposés et tout. Ah oui.
Ça va faire 3 ans, bientôt au mois de juillet, là.
L'amour, c'est pas forcément l'amour, comment on dirait, amour et beau dodo dans les yeux bleus, mais non, c'est aussi l'amour de tout, quoi. Le pur et le meilleur, quoi. C'est d'essayer de comprendre l'un à l'autre, quel qu'on est, d'où qu'on vient, de quoi on arrive.
Ah, mais mon amoureux, c'était toujours Philippe. Hein. Ça restera toujours Philippe. L'amour, c'est se faire confiance, quoi.
Des fois, il y a des hauts et des bas, quoi. Nicole est intelligente. Moi, un petit peu moins intelligent, moins ouvert. Nicole a des esprits plus énergiques que moi. Je suis plus plongeur dans les fonds. Alors, il y a des moments où on se fait des tremblements de terre. Mais bon, c'est bien. Ça nous aide à vivre. On se soutient vraiment de quelque chose de très grande, très grande, très grande expérience. Hein. Pour pas souffrir, il faut rêver tout le temps. Il faut rêver debout, assis, en rigolant, regarder le regard des uns et des autres. Parce qu'on aime peut-être la terre entière, on aime les gens. C'est normalement, c'est une fidélité, c'est ça qu'il y a. Hein. Bon, ben, oui, imagine, c'est quoi la vie? Et la musique qui nous réveille, mais bon. Le monde, c'est quoi? Ce sont des insectes qui marchent sur la tête, c'est tout. Et qui cherchent à faire réveiller soi-même. Et gagner quelque chose, quoi. Ça, surtout ça.
Moi, je voudrais que ça change, quoi. Que le monde change, que le monde nous comprend maintenant, à l'heure actuelle. Que les gens nous considèrent plus comme des handicapés mentaux et physiques. Qu'ils nous considèrent comme tout le monde, quoi. Comme tout le monde qui n'a rien, quoi. C'est ça que je voudrais faire changer, quoi.
Est-ce que les droits soient acceptés en France pour que qu'on ne soit plus en train de souffrir, en train de penser sans arrêt à des choses qui sont réelles, que de faire un monde autrement par rapport à...
Et de nous comprendre, surtout.
Et de nous comprendre, quoi.
Bonjour à tous, bah, je viens d'écouter l'émission sur le couple de handicapés, ça m'a beaucoup touchée. Et j'ai trouvé qu'il était très très digne et très lucide, Philippe, et qu'il y a énormément d'amour entre eux, et c'est vraiment touchant. Moi, je suis étudiante en orthophonie, et je sais pourquoi je veux faire ce boulot, je l'ai toujours su. C'est vraiment pour tendre la main, et c'est l'écrit et la lecture, c'est essentiel pour être libre. Et ça m'a vraiment renforcée dans ma vocation. Merci beaucoup, et bon courage à eux deux. Au revoir.
Je pense qu'il faut laisser la liberté, il faut laisser l'égalité, il faut laisser surtout la fraternité sur ce sens. Mais l'égalité du travail, c'est aussi l'égalité quelqu'un qui travaille pour son bien, pour son sourire, pour son désir, pour son plaisir, mais qui ne soit pas pris en main par personne. On croit faire du bien, on croit lui faire du bien, mais le bien n'est pas forcément bien là. Parce que si quelqu'un ne pleure pas, c'est parce qu'il est tendu, mais il est tendu dans ses habitudes tous les jours, matin, midi et soir. Mais je pense qu'il y a un petit peu d'esclavage malgré ça. Voilà. Ça, c'est les oiseaux de la paix, ça, c'est symbolique, hein. C'est le signe de paix.
C'est le mal que sentait là. C'est ça, quand je m'en vais me coucher, quand il sait que la nuit tombe, je recoule pour aller faire dodo. Puis il dort juste à côté de mon lit, là.
Ah oui, Coco, je l'aime bien.
Allô, oui, bonjour Daniel. Voilà, ben, j'appelle parce que j'ai été beaucoup touchée par le témoignage de Philippe et Nicole hier. Et je voulais leur dire simplement que il fallait passer aux apparences. Les handicapés, c'était pas toujours ceux qu'on pensait, et que parfois les gens dits normaux sont pas mal handicapés, surtout quand j'entends le niveau de réflexion de Philippe. Voilà, il y a beaucoup de ces personnes normales entre guillemets qui n'ont pas ce niveau de réflexion. En plus, j'ai beaucoup aimé sa façon de s'exprimer, j'ai trouvé très belle. Voilà, en tous les cas, je les embrasse très fort et je les soutiens dans leur combat.
Désinsulariser le handicap. C'est beau hein, comme terme. Alors, vous avez très très nombreux messages sur le répondeur de la base. Si j'y suis, vous parlez de Philippe. Dit, ah, bah, Philippe, faites gaffe, hein, parce que il faut aussi parler de Nicole. Nicole, hier, elle dit, oui, mais d'accord, mais on m'entend pas assez, etc. On va l'entendre à nouveau, Nicole, on va vous entendre à nouveau. Et puis, on va l'entendre une autre Nicole. Nicole Diedrich, qui est sociologue, docteur en sociologie, et qui, depuis très longtemps, travaille sur le handicap. Elle est chercheure, chargée de recherche à l'INSERM.
Y a-t-il une définition légale du handicap selon la loi de 1975 qui est toujours en vigueur aujourd'hui ?
Alors, la loi de 1975 n'a donné aucune définition de la notion de handicap. C'était volontaire. Le législateur a dit à ce moment-là qu'il fallait laisser ouverte la porte à toutes les situations qui pourraient se présenter ultérieurement, sans prendre garde aux extensions possibles qui pouvaient faire rentrer dans cette catégorie de handicapé mental, par exemple, des gens qui, autrefois, n'auraient pas été désignés comme tels, quoi.
Oui, c'est ce qui explique donc que quand on parle aujourd'hui du handicap mental en France, il y a un énorme amalgame entre des situations fort diverses.
Alors oui, tout à fait. En fait, le handicap mental n'existe pas. Enfin, c'est une catégorie qui ne recouvre strictement aucune réalité clinique. Elle concerne tout aussi bien des gens, enfants et adultes, qui vont avoir des difficultés dans le rapport à l'autre, des difficultés d'expression, des difficultés de communication, des difficultés à s'insérer socialement, hein, parfois des troubles mentaux plus ou moins légers, à des situations de handicap très graves qui nécessitent une prise en charge quasiment, je dirais, continue. Donc cette palette est extrêmement large et on s'aperçoit qu'elle touche d'ailleurs un nombre de plus en plus important de gens.
Est-ce qu'on peut savoir combien aujourd'hui il y a de handicapés mentaux ?
Il y a quelques estimations. L'UNAPI, par exemple, donne un chiffre de 450 000 personnes handicapées mentales. Mais en institution, il y a environ 60 000 personnes et environ 80 à 90 000 personnes accueillies dans des centres d'aide par le travail. Le reste, ce sont des gens qui vivent majoritairement soit en famille, soit chez eux, dans leur propre logis, avec une allocation éventuellement d'adultes handicapés qui vivent en couple ou seuls, avec ou non un service d'accompagnement, un service de suivi.
Je suis d'accord, Philippe et Nicole sont émouvants et je comprends leur combat par rapport aux autres. Mais ton émission m'a fait mal en tant qu'handicapé. Dans ton émission, il y a un énorme défaut. On a l'impression d'un amalgame entre handicap physique et handicap mental. D'ailleurs, je suis persuadé que Philippe et Nicole ne sont pas handicapés mentaux, mais que leur adolescence en institution spécialisée, les papillons blancs, ne leur a pas permis d'avoir un développement intellectuel normal. Il ne faut pas confondre intellectuel et mental. J'ai pour ma part le même handicap que Philippe. J'ai d'énormes problèmes pour parler et pour marcher, mais il y a quand même 30 ans que je suis ingénieur au commissariat à l'énergie atomique et ma vie y est passionnante. Dans la vie, je me régale au boulot et en dehors du boulot. Alors Daniel, je te demande de remettre les pendules à l'heure. Quand on est handicapé, on est condamné à être meilleur que les autres pour pouvoir jouir de la vie. Je précise que ce message a été transmis par un de mes amis, compte tenu de mes problèmes d'élocution. Merci.
Voilà, surprenant. Merci pour ce message évidemment étonnant. Avec ces reportages et grâce à Nicole et Philippe, on a compris qu'on a mis le doigt sur un domaine. Enfin, on sait bien, mais voilà, on traite pas, on n'ose pas, on n'aborde pas. C'est vrai qu'il y a un rejet, c'est vrai qu'il y a une gêne, c'est vrai qu'il y a une ignorance. Et c'est vrai qu'il faut évidemment travailler à désinsulariser le handicap, qu'il soit handicap physique, qu'il soit handicap mental. Donc on est avec Nicole Diedrich, chercheuse, sociologue, je le rappelle, et qui dans un bouquin étonnant qui s'appelle Les naufragés de l'intelligence, qui est épuisé mais qui je crois va être prochainement réédité, Nicole Diedrich en sociologue qu'elle est, s'est attachée à suivre sur des années et des années, ce qu'évidemment les journalistes ne peuvent pas faire ou n'ont pas l'habitude de faire, le parcours de ces handicapés mentaux. Que deviennent-ils? Qu'est-ce qui infléchit leur existence, leur parcours, les raisons, parce qu'il y en a, de leur handicap? Nicole Diedrich.
Dans Les naufragés de l'intelligence, un ouvrage qui est malheureusement épuisé mais qui sera certainement réédité, vous racontez l'histoire de 67 personnes qui sont passées dans des IME, des centres médico-éducatifs, dont Philippe et Nicole. Et toutes ces histoires racontent qu'un marquage comme handicapé mental aboutit à l'exclusion, alors que justement la loi de 1975 prônait l'intégration sociale.
Oui, alors bon, cette étude, effectivement, je l'ai menée avec la collaboration très active de André Gio, qui était éducateur de suite dans cette institution. Il s'agissait en fait de retrouver la trace de tous les jeunes sortis de cette institution en direction du milieu ordinaire de travail. La quasi-totalité de ces jeunes provenaient de ce qu'on appelle le quart-monde, de milieux extrêmement défavorisés, avec des histoires de vie absolument toutes aussi épouvantables les unes que les autres, des histoires de maltraitance, de violence sexuelle, d'inceste, enfin des histoires assez terribles. Ces jeunes ont été placés, puisque ça allait très mal dans leur vie personnelle en tant qu'enfant, ça allait très mal pour à l'école, et la solution donc a été de les placer dans une institution pour handicapés mentaux. On les place sans leur donner aucune explication dans une institution où il y a des enfants quand même très lourdement handicapés. Et on leur dit, voilà, c'est ta place maintenant. Et de ce jour-là, ils vont devenir des handicapés mentaux. Hein. Et d'ailleurs, l'institution s'appelait les papillons blancs. Tout le monde dira, ah, les papillons blancs, les voyants, c'est les papillons blancs. Donc, il y a une désignation comme ça à laquelle il va être très difficile d'échapper. Même à l'âge adulte, ils vont faire des efforts absolument désespérés à l'âge adulte pour échapper et essayer de dire, mais attendez, nous, on a eu des problèmes dans l'enfance, mais c'est pas vrai, on est capable, on peut travailler, on peut vivre, on peut faire des choses. Certains d'entre eux vont réussir à s'intégrer en milieu ordinaire, d'autres vont échouer de façon parfois tragique, hein, puisque certains vont se retrouver en prison ou en hôpital psychiatrique. Trois d'entre eux vont se suicider, des vrais suicides, hein, pensés longtemps à l'avance et préparés, médités. Des suicides liés à la souffrance extraordinaire de ne pas pouvoir devenir normaux, parce que ça c'est le grand mot, hein, comme tout le monde.
Alors Nicole, elle était exclue donc à partir de 14 ans des apprentissages scolaires, auxquels finalement elle aurait pu avoir accès si elle avait été issue d'un milieu social plus favorisé. Je voudrais insister là-dessus parce que s'il y a une chose qui semble au moins sûre, c'est que les inégalités sociales aggravent les déficiences qui sont présentes au départ.
Ah ben absolument. Le même destin n'est pas le même avec le même handicap chez un enfant pour lequel la famille va faire le maximum pour miser sur la rééducation, et un enfant qui va être dans une famille qui soit elle va l'abandonner. Hein, d'ailleurs, hein, faut savoir que 50% des abandons en région parisienne, c'est une étude d'Annick Dumaret, sont des enfants trisomiques. Nicole avait une IMC, une infirmité motrice cérébrale. Hein. Elle n'était pas du tout atteinte dans son intellect. Si elle avait suivi une scolarité normale, elle aurait peut-être eu quelques années de retard, mais elle aurait pu tout à fait suivre une scolarité tout à fait ordinaire. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les IMC, ce sont des accidents de naissance. Hein. Ce sont pas des handicaps transmissibles. Philippe dit qu'il est né avec le cordon autour du cou et Nicole, l'accouchement a duré très longtemps. Alors là, je ferai juste une toute petite parenthèse, il n'y a pas d'études là-dessus, mais moi je rencontre énormément de gens qui ont eu des accidents de naissance. Vous voyez, Philippe, il est né le 31 décembre. Nicole, elle est née le 15 août. Et je peux vous en citer beaucoup. De gens qui ont eu des accidents de naissance autour de fêtes. On parle aujourd'hui des carences hospitalières. Je peux me référer à pas mal de gens qui ont eu des accidents de naissance, qui les ont laissés handicapés autour de l'accouchement. J'en connais quand même pas mal. Il faut savoir que ce ne sont pas forcément des handicaps transmissibles, parce que sinon, on va reprendre les vieilles théories eugénistes et on va dire, bah voyez, les pauvres engendrent des handicapés, etc. C'est pas du tout ça. En fait, ce sont des enfants qui ont été très carencés dans leur enfance, affectivement et pédagogiquement. Donc, le fait qu'il y ait plus d'enfants, je dirais, ayant des troubles mentaux dans les milieux défavorisés, ne veut pas dire que ces milieux défavorisés sont plus sujets à produire des gens en difficulté. Non, ce sont des conditions de vie qui font que je pourrais vous en citer à l'appel de ces jeunes gens qui ont vécu des choses tellement traumatisantes dans leur enfance. Ils vont être soit sur le versant de la délinquance. Si vous voulez, à un moment donné, ils peuvent avoir la chance ou la malchance de basculer soit dans la délinquance, soit dans le handicap mental. Je vous donnerai un seul exemple. J'ai une amie qui est conseillère d'éducation et qui, il y a quelques années, me téléphonait avant les vacances en me disant « On a un jeune chez nous, il va falloir qu'on l'envoie en IMPRO, enfin donc en institut médico-professionnel pour déficient, en tant que déficient mental. Parce qu'il suit plus à l'école, il est trop turbulent, il est embêtant. » Bon, ça lui posait beaucoup de problèmes. Et elle me rappelle à la fin des vacances en me disant « Ouf, il a fait un cas cet été, il a été arrêté par la police et il va suivre le chemin de la délinquance. Et le chemin de la délinquance, c'est pas du tout le chemin du handicap mental. Il ne sera pas stigmatisé comme handicapé mental. Hein. Il y aura toujours une possibilité de rédemption. C'est quand même moins stigmatisant, moins invalidant sur le plan du mental, d'avoir été délinquant que d'avoir été... Voilà. Mais je veux dire, ça c'est un exemple. Je dirais à trouble égal, les chemins peuvent être très différents et que le fait de frapper du sceau de déficience mentale un enfant est une peine supplémentaire. Vous voyez, à l'étranger, dans plusieurs pays, les notions de handicap mental, par exemple déficience mentale, sont interdites. Par exemple, en Angleterre, on parle de personnes avec des difficultés d'apprentissage. Et je crois en Suède également, appeler quelqu'un un déficient mental tombe sous le coup du registre de la maltraitance à des personnes. Voyez, donc c'est une forme de maltraitance que d'appeler quelqu'un déficient mental. Maintenant, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui ont des difficultés, qu'il faut les aider. Mais je pense qu'effectivement, ces notions de difficultés, par exemple, difficultés d'apprentissage, après tout, sont beaucoup moins stigmatisantes, beaucoup moins enfermantes, beaucoup moins définitives non plus, parce que ça veut dire éventuellement que on peut revenir dessus, alors que handicap mental est un statut, c'est définitif, c'est figé, on fige l'individu, on le détruit.
Justement, pour Philippe, le fait d'être illettré, ça revient à avoir un petit peu, comme vous dites, la vie derrière soi. Au lieu d'avoir la vie devant soi, il a la vie derrière soi. Et là, vous arrivez à une conclusion très intéressante. Vous dites que ces enfants n'ont pas acquis ce qu'ils auraient dû acquérir, la capacité de lire et d'écrire dans les délais impartis. Mais pourquoi ne pourrait-on instaurer une sorte de capital éducatif qui leur permettrait de rattraper ces retards qui ne sont jamais définitif.
Ça, c'est quelque chose auquel j'adhère complètement et je m'étonne aujourd'hui qu'on n'en parle pas plus dans les grands débats concernant l'échec scolaire. Ce capital, effectivement, de scolarisation qui pourrait éventuellement être reporté à un âge adulte, j'ai pu constater à quel point ça aurait été utile pour ces jeunes gens. Parce qu'ils ont réalisé bien plus tard l'intérêt de la lecture pour faire des commandes, pour remplir des commandes, etc. Ils ont réalisé que c'était important. Et là, ils se sont dit, zut, j'ai été bête, qu'est-ce que et donc il se culpabilise, j'ai été idiot, j'aurais dû apprendre, mais à l'époque je savais pas que c'était important comme ça. Et quand je leur dis, mais pourquoi n'essayez-vous pas de nouveau d'apprendre à lire et écrire? Non, c'est trop tard et je ne peux pas. Et en plus, c'est vrai, dans le cas de Philippe par exemple, eh bien il travaille en usine, il est fatigué, il a des problèmes de dos, donc il lui faudrait carrément, je sais pas, un stage formation de 3 mois, ou imaginez quelque chose de cet ordre-là, dans le cadre de la formation continue, enfin quelque chose qui pendant 3 mois, il baignerait dans dans les lettres, c'est vrai que quand on l'écoute, c'est hallucinant, il avait été étiqueté arriéré profond. Arriéré profond, il faut savoir que c'est vraiment la pire désignation. C'est une terrible violence.
Un berger tombé sur les arbres, effondré par l'humanité. Il ne pouvait plus se réveiller, et alors ses doutes passeraient. C'est moi qui les invente moi-même.
Je cours, non.
J'essaie de regarder un peu dehors, parce que bon, la vie n'est pas forcément à l'intérieur. On pourrait vivre sauvagement. Hein. Et malheureusement, c'est que les handicapés, souvent, on les voit très souvent enfermés, très à l'intérieur, mais pas très intellectuels. Ils sont intellectuels. Parce que ils sont intellectuels, mais un intellectuel spécial. C'est pas un intellectuel comme tout le monde. C'est un intellectuel qui se développe par l'agrandissement de la vie. Et c'est ça qui fait souffrir ces handicapés, c'est de les voir grandir et de les voir vieillir. Alors, ils essayent de nous regarder avec une espèce de misère lourde à travers les yeux. Et souvent, je pourrais dire, on n'est pas battu parce que on se fait battre, mais on est battu par cette force qui veut pas nous donner de l'intelligence. Et qu'il faut qu'on la cherche nous-mêmes. C'est comme la chasse au trésor. Vous voyez? Ça, c'est un véritable combat. C'est un vrai combat de la vie pour toutes les filles ou les garçons qui sortent au monde avec un handicap, c'est tout.
Philippe, c'est le sens même de la vie, ça, ce que vous venez de dire.
C'est le sens de la vie.
Je crois.
Mais comment découvrir le sens de la vie dans ce sens-là? Aujourd'hui, il y en a plein qui ne le savent pas et qui ne l'ont pas encore découvert. Parce que, si tu veux, Claire, il y a des éducateurs qui travaillent avec eux, mais qui travaillent que pour les faire travailler. Mais quand on est plein de travail dans sa tête, on n'a pas le temps de penser à ce qui se passe derrière. On n'a pas le temps. Quelqu'un qui est dans son canapé le soir et qui reprend le boulot le lendemain et qui est surveillé par un éducateur et qui y a des ordres et qui peut pas se développer son cerveau par rapport à ça, eh bien évidemment, il se sent différent. Il y a tellement de belles choses à voir dans la vie, il y a tellement de choses à enregistrer, à écouter, à s'y intéresser, même à la télé, dans les chansons, des trucs comme ça. Et la différence, elle est là aujourd'hui.
Bon, ça dure une minute,
hein. Ah, je vais donner son contact. Là, c'est bien. J'adore les femmes. J'adore les femmes. Elles ont tant de mystère et tant de charme. Un mal condamne, un mal de l'âme. Mais c'est ton fort que tout, j'adore les femmes. Elles me sont trop souvent la comédie.
Alors ça, c'est de Franck Michel. Mais attendez, je me trompe encore. Franck Michael, voilà. Alors là, je me suis fait remonter les bretelles. Hier, j'ai parlé de Frédéric François. Et ben voilà, j'avoue, humblement, j'y connais rien du tout. Frédéric François, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Et ce chanteur-là, c'est Franck Michael. Et Franck Michael, c'est la star de Nicole. Et ce qu'on souhaiterait, c'est que Franck Michael, eh bien, rencontre, Nicole. Et on sait que Franck Michael va passer à partir du 17 octobre pour 15 concerts exceptionnels à l'Olympia. Et on aimerait bien que s'il y avait une petite place pour Nicole et pour Philippe, on serait vachement contents. Et c'est surtout eux qui seraient très très contents. On continue avec Nicole et Philippe et Nicole Diedrich qui nous parle plus précisément des conditions de travail de nos amis.
Justement, en matière de violence, Nicole, elle pointe aussi la violence en creux qu'elle a subie, le manque d'attention, le manque de soins, les travaux excessifs. Est-ce qu'à ce jour, la situation a évolué?
Je ne peux pas dire que les choses ont radicalement changé ou qu'elles ont changé. Il faudrait faire des études sur ces questions. Moi, ce que je peux constater, c'est que, par exemple, pour les adultes, il y a une absence de prise en considération d'abord de l'état de santé, je dirais, de cette population. Nicole, il se trouve que pour les filles, c'était à l'époque, c'était le repassage et bon, les soins ménagers, la couture, etc. Le problème, c'est que il peut y avoir, comme dans le cas de Nicole, des excès, puisque si les commandes, parce qu'ils avaient des commandes, enfin c'était les gens du village qui venaient apporter leur linge, si les commandes sont importantes, eh bien on faisait faire à Nicole et aux autres jeunes filles du repassage à longueur de journée en leur disant bah, le scolaire tu le feras demain, ou le scolaire c'est pas important, tu viens faire le repassage. Moi j'ai pu le constater dans plusieurs institutions. Dans une autre institution, il y avait des jeunes filles qui travaillaient à faire des bavoirs pour trachéotomiser, par exemple. Bon, toute la journée, elles avaient 14 ans, 13-14 ans. Hein. Toute la journée, elles étaient sur des machines à faire les bavoirs pour trachéotomiser. Et elles me disaient, on peut pas lever le nez. Et quand il y a des grosses commandes, c'est vraiment terrible. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas de contrôle, de suivi, livre cette population à des gens qui n'auraient pas trop de scrupules. Voilà. Ce sont des lieux quand même qui pour l'instant échappent à toute législation. Il n'y a pas la législation du travail, il n'y a pas le droit de grève, il n'y a rien. Donc ce sont des populations qui sont livrées sans vraiment que l'on sache vraiment très bien ce qui s'y passe. Hein. Et les familles n'ont pas tellement intérêt non plus à râler, parce que sinon on leur dit bah écoutez, hein, vous reprenez votre enfant et puis vous allez voir ailleurs. Or comme il y a un manque de place énorme, eh bien les familles ne disent rien très souvent, hein. Ou elles se font mal voir.
Je ne sais pas comment les autres font, mais moi, après ton émission, j'écris et je te lis. Mon prénom, c'est Jacques. Mon nom, c'est celui de tant d'autres qui ne s'exprime jamais. Oh, Daniel, si tu savais tout le mal que l'on t'est. La peur des parents qui ne veulent pas dénoncer tel abus, tel manquement, afin de ne pas perdre la petite chance qu'ils espèrent trouver une place pour leur enfant. Les solitudes des handicapés mentaux qui n'ont pas ou plus de familles et dont certains sont encore jeunes, régis par des tutelles, souvent incontrôlées, la crainte des élus siégeant au sein des conseils d'administration d'établissements psychiatriques qui n'osent pas poser de questions, le découragement de tant d'éducateurs et d'éducatrices, d'infirmiers et d'infirmières qui n'osent parce qu'ils ont besoin de conserver leur boulot, les dictates de certaines DAS, les folies de certains psychiatres plus malades que leurs patients, la crédulité, le désarroi. Daniel, si tu savais comment survit et souvent est détruit un couple lorsque survient l'handicap d'un enfant à sa naissance ou par la suite dans un accident, les reproches, la culpabilité, le problème que cela pose à ses frères et sœurs, la hantise de l'âge, la satisfaction de le voir se laisser vivre et sembler se satisfaire, le bonheur d'avoir survécu avec lui dans cette vie comme les autres, la douleur de voir parfois une larme, le souhait que l'on parte ensemble, accidentellement par exemple, si un pneu éclate ou un chauffard nous percute, si seulement il existait des externats pour ces jeunes adultes qui souffrent de troubles associés, comme ils disent, qui ne relèvent ni des CAT où ils doivent produire, ni des hôpitaux psychiatriques, on les assomme de tranquillisants.
D'abord, premièrement, on dit bonjour. Mais après le bonjour, il n'y a plus rien. Les gens qui vont dire bonjour facilement, ils vont d'abord nous écouter, nous. Mais nous, on va dire bonjour parce qu'on veut des informations. Nous, le problème qui se pose, c'est que les handicapés qui veulent aller dire bonjour à des intelligents ne sont pas forcément reconnus comme des gens normaux. Donc, je suis empêché, quoi.
Allez, dis pas grand chose.
Mais tu dis quoi?
Quoi?
Pas grand chose, tu l'as dit.
Hey Philippe dit, on nous regarde avec une misère lourde dans le regard, hein?
Oui, Philippe a toujours des expressions très, je dirais, très belles, très poétiques, hein. Et je crois que cette compassion est une violence terrible qu'il aurait fait. Les pauvres handicapés. En fait, aujourd'hui, vous avez des mouvements de personnes handicapées physiques qui disent, nous, on veut plus être des pauvres handicapés, on veut plus de charité, on veut être des citoyens, on veut travailler, on veut gagner, on veut pas être des assistés, on veut travailler. Et je vous assure que même les plus handicapés, maintenant, sont parfaitement capables de travailler. Je crois que cette compassion est une violence dans ce sens où elle les exclut finalement de l'humanité commune. Hein, c'est-à-dire ils ne font pas partie de nous, ils sont les autres. Et je crois que ça, Philippe le ressent très fort. Un jour, il m'avait dit « Je voudrais qu'on en finisse avec cette étiquette de handicapé mental. Pour moi, c'est du racisme. C'est comme d'appeler les Noirs des nègres. »
Que...
L'histoire de Philippe montre qu'il ne faut surtout pas faire de pronostics d'avenir, et particulièrement pronostics négatifs. Philippe, théoriquement, il était considéré comme arriéré profond, et aujourd'hui il est marié, il travaille, il a une intelligence certaine, et puis également, ce qui est important, c'est de montrer que d'une part ils peuvent s'en sortir, mais que faut pas non plus les laisser livrer à eux-mêmes. Hein. Et c'est là toute la notion du mot accompagnement. Accompagnant pourrait être un très beau mot, et un très beau métier s'il était reconnu et un peu valorisé. Un accompagnant, c'est quelqu'un qui aide à faire le chemin, c'est pas quelqu'un qui prend les décisions à la place de l'autre. L'exemple, hein, Nicole Philippe, quand même, qui se débrouillent très bien hein, par eux-mêmes, devraient donner, j'espère, espoir à beaucoup de parents et de jeunes hein, pour leur permettre d'accéder à une autonomie et une vie sociale riche et entière. Hein. On peut pas leur offrir un château, mais au plus proche de leur désir, ce qu'ils peuvent faire, et leur faire confiance. Je crois vraiment que c'est le grand mot, c'est leur faire confiance. Ils en ont vraiment besoin. Et ils sont beaux.
Allez, d'accord, siffle. Siffle, coco.
Allez, Jaco. Et Ed, pour coton. Ah. Oui.
Merci à tous les deux. Merci à Nicole. Merci à Philippe. Merci à Nicole Didry. Je rappelle le titre de son bouquin qui devrait être republié bientôt, Les Naufragés de l'Intelligence. C'était un reportage de Claire Auter. On reparlera demain d'autres sujets sur lesquels on n'a pas eu le temps de rester aujourd'hui, notamment sur la tutelle, parce que ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes très chatouilleux. Il y a eu plusieurs messages, donc on en parlera demain en début d'émission. Technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. Assistante, Joël Levert. Le répondeur, c'est Christophe Imbert. La musique, c'est Koyen Guyen. Le répondeur, c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale.